La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mardi, deuxième moment de notre série consacrée au fascinant écrivain Edgar Allan Poe. Presque dès le départ, la mort a dansé autour d'Edgar Poe. La mort de sa mère d'abord, alors qu'il était enfant, un tout petit enfant, puis celle de son frère avec qui il signait des textes, puis encore celle de sa femme, très jeune elle aussi, avant que lui-même ne soit retrouvé inanimé un soir à Baltimore et ne décède quelques jours plus tard dans un nuage de délire pour des causes toujours mal expliquées. Car la vie de Poe a été tragique, nous l'avons vu hier, c'était avec sa biographe Isabelle Viéville-Desgeorges dans une émission à retrouver bien évidemment en podcast. Son œuvre, elle a été, comme on le sait, traduite en grande partie par Baudelaire, ce qui n'a pas empêché d'autres traducteurs de se lancer dans l'aventure. Le dernier en date, c'est Thierry Gilibeuf. Il s'est lancé dans la retraduction chez Phébus des œuvres complètes de l'écrivain avec son acolyte Christian Garcin. Et il sera ici demain pour nous en parler. Enfin jeudi, avec Jean-Pierre Nogrette, nous reviendrons sur divers aspects de l'œuvre de Poe, en nous arrêtant plus longuement sur le double assassinat de la rue Morgue, ainsi que sur son unique et inachevé roman, Les Aventures d'Arthur Gordon Pym. Et aujourd'hui ? Bien aujourd'hui, pour plonger un peu davantage dans la prose d'Edgar Poe, nous sommes avec vous, Henri Justin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des littératures britanniques et américaines, en particulier évidemment de l'œuvre d'Edgar Poe, sur qui vous avez publié plusieurs ouvrages, dont en 2009, L'essai avec Poe jusqu'au bout de la prose, c'était aux éditions Gallimard, et puis en 2016, vous avez aussi donné aux éditions Classique Garnier, cette fois une traduction nouvelle, après celle de Baudelaire, des contes policiers et autres du même Edgar Poe. Et malgré toute cette connaissance accumulée sur lui, eh bien vous expliquez que Poe continue encore et toujours de vous étonner. Qu'est-ce qui vous étonne encore chez lui ?
C'est son extrémisme intellectuel.
Son extrémisme.
Il a été au bout de la prose. Bon, c'est l'idée qu'il a pris la littérature à bras-le-corps, il a voulu être poète, il arrive derrière les romantiques anglais, et il a vu qu'il n'avait pas la carrure, et surtout il n'avait pas la puissance psychique.
Et la volonté ?
Pas la volonté, mais c'est vous l'avez dit, c'est un homme blessé. Et se laisser aller à la poésie suppose quand même une moitié laisser aller, moitié construction, moitié laisser aller. Le laisser aller, impossible pour Poe. Donc il ne connaît que la construction volontaire. Et il a cherché une formule qui ne soit pas la poésie, qui ne soit pas non plus le roman, parce que ça, ce qu'il appelle le roman linéaire, les choses qui suivent, puis voilà, au fil de la vie, on lit ça dans le métro, si j'ose dire.
À l'époque, pas tellement, mais bon, aujourd'hui, oui.
Et puis surtout, on peut le poser, le reprendre, vous voyez, c'est de gros livres, à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui. Et donc, il l'explique, il y a dans la montagne de la littérature, en haut, il y a le pic, qui est la poésie, court, pour lui. En bas, il y a le roman qui s'étale, qui suit la vie telle qu'elle va. Et il se taille un plateau qui est quand même de la prose, mais courte. Il dit entre une demi-heure et deux heures. Et qui met à nu les structures poétiques, au moins du romantisme.
Alors ça, c'est un petit peu le cœur de votre essai, ce que vous venez de nous dire, avec Poe jusqu'au bout de la prose. On va en parler dans cette émission, mais avant cela, je voudrais faire quelques petits détours. Voir un peu dans quelle mesure Poe a été reconnu assez tardivement, en tous les cas aux États-Unis. Et vous expliquez très bien comment il a fallu passer par l'Europe et singulièrement par la France pour qu'il y ait une reconnaissance américaine de Poe qui est arrivée dans les années 1970. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi a-t-il fallu ce détour, Henri Justin ?
Il y a peut-être eu un hasard de l'histoire, mais Poe l'a voulu. C'est ça aussi qui m'impressionne toujours, il est conscient.
Il l'a voulu.
Il dit à son père, il a 20 ans, il écrit à son père, « Bon, d'accord, Richmond, c'est trop petit pour moi, j'aurai le monde. » Point. Et plus tard, il y a des notes qui sont pas, je crois, qui sont pas publiées, où il dit « littérature nationale, c'est très bien, à condition qu'on s'arrête pas à la nation. » Vous avez des problèmes avec « Oh, c'est américain, donc c'est merveilleux. » Il dit « Non, non, c'est de la littérature. C'est bon ou c'est pas bon. » Et la littérature, le jugement doit être mondial. Voilà. Et donc, il se place directement. Il n'a pas grand-chose à perdre, étant donné qu'il n'a rien. Il se place directement au niveau mondial.
Est-ce que ça change, du coup, sa manière d'envisager ses textes ? Est-ce qu'il pense ses textes à l'échelle du monde ? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'est pas uniquement un écrivain américain. Et d'ailleurs, tout le monde le dit. Baudelaire le disait le premier.
C'est difficile à se mettre dans sa peau, évidemment. Je crois que c'est surtout qu'il a développé son imagination d'une façon incroyable au niveau ce que j'appelle le centre infini. Enfin, il a travaillé l'espace imaginaire et il pouvait pas le trouver localement parce que l'Amérique était en train de se construire. Il y avait les querelles. Avec l'esclavage, avec des querelles avec la démocratie qui démarrait, etc. Il voulait pas s'embourber là-dedans. Et il a eu tendance à chercher son inspiration un peu mondialement, c'est-à-dire d'abord à Londres, avec toute la littérature anglaise qui existait, le gothic, hein, le roman noir anglais, les articles des contes qu'il trouvait, contes de Blackwood, il y avait le roman historique, il y avait différentes formes qui existaient. Et puis, je pense, alors là, il le dit pas clairement, sa deuxième langue était le français. Sûrement qu'il le parlait très mal, mais en fait, il en avait une certaine connaissance avec des fautes, si vous voulez. Et je pense qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque, aujourd'hui, le centre du monde artistique, intellectuel, c'est plutôt New York. À l'époque, c'était Paris. Si on voulait faire bien dans un roman, on le truffait d'expressions françaises.
Et de personnages français. Il y a même pas mal de textes de Poe qui se passent à Paris, alors qu'il n'a jamais mis les pieds à Paris.
Alors Poe, justement, place ses personnages en Italie, à Londres, à Paris, en particulier à Paris, pour concevoir la nouvelle policière. C'est-à-dire ce Auguste Dupin qui est censé être l'esprit des Lumières, l'esprit français par excellence.
Donc, il y a un rapport dans son esprit entre, je sais pas, la logique peut-être cartésienne à la française et le récit policier.
Il y a dans les Meurtres de la rue Morgue une critique du cartésianisme, complètement. C'est le thème de la tête tranchée du tronc. Je pense, donc je suis. Non, non, non. Je suis et peut-être que je pense. C'est-à-dire que... Bon, c'est difficile d'avoir à développer, mais il a tout un imaginaire de la tête coupée du tronc qui est une critique du cartésianisme.
Donc une critique de l'esprit français
tout en l'utilisant. Oui. Si on prend le dernier paragraphe des Meurtres de la rue Morgue, on ne parle plus du meurtre de la rue Morgue, on parle du préfet de police. Et Dupin dit, il est sympa, mais il est tout en tête. Il n'a pas de tronc. Il pense pas avec son corps. Il a pas de stamen en anglais. C'est-à-dire l'étamine, c'est la partie mâle de la fleur. Vous voyez, on va les choses. Bon, il a pas de phallus. Et donc c'était relativement facile, de l'avoir parce que lui, Dupin, il a la tête et le corps, et il arrive à articuler les deux. Et ça, bon, je pourrais continuer là-dessus.
Alors, évidemment, ce rapport à la France, il passe donc par Baudelaire. Ça, on va en parler, évidemment, tout au long de cette série. Mais c'était aussi le maître proclamé de quelqu'un comme Mallarmé ou comme Valéry. Donc, c'est-à-dire qu'il est un guide quand même pour un certain nombre de littérateurs français. En quoi diriez-vous que Poe les a guidés, les a inspirés ?
C'est fascinant, moi, ça continue à me laisser rêveur qu'un petit écrivain américain, après tout, bon, qui travaillait dans les, qui écrivait dans les magazines, etc., va inspirer cette lignée. On pourrait ajouter la querelle Marie Bonaparte Lacan. Après, il y a des articles de Ricardou encore qui sont très riches, etc. Je crois que justement, il y avait dans cette prose, moi je crois entièrement à cette filiation, c'est-à-dire ni Baudelaire ni Mallarmé ni Valéry ne se sont trompés en ce qu'ils ont dit. Il y avait dans cette prose, il y avait tout ça qui était là, quoi. Et Baudelaire.
Quoi, c'est-à-dire en quoi est-ce qu'il les inspire réellement?
Baudelaire a vu la prose. Donc le fantastique, le policier, ça intéressait pas beaucoup, mais enfin l'étrange, l'extraordinaire, etc. Ce qu'il appelle extraordinaire, mais Poe n'a jamais écrit d'histoire extraordinaire, ça c'est Baudelaire.
Oui, c'est une invention.
Donc c'est la prose.
C'est Baudelaire. Ouais.
Mallarmé, les contes, les symbolistes, la prose, non, c'est mauvais la prose. Non, il est un grand admirateur de la poésie de Poe, et il a des formules extraordinaires. Pour un poème de Poe, il dit jamais l'imagination n'a été aussi loin, il le dit mieux que ça. Et puis, surtout, dire de Poe, c'est le cas littéraire absolu. C'est à la fois le cas, donc c'est vrai que Poe, il apparaît plutôt comme un cas. Mais c'est le cas absolu. Il y a quand même quelque chose de paradoxal là-dedans, une sorte d'exception, mais qui est l'exception directrice. Un peu comme en mathématiques, vous avez des singularités, elles suivent pas la règle. Mais la règle les suit. Et Poe, c'est ça, c'est un singulier, il est singulier. Et donc ça, c'est Mallarmé et la poésie de Poe, encore qu'il ne pense pas qu'il la comprenait tellement bien, il l'a mal traduite. Et puis Valéry, c'est la critique. C'est-à-dire que Valéry dit, voilà, j'avais 20 ans, j'ai lu Poe, je voulais être poète, j'avais écrit déjà des poèmes, j'ai lu Poe, je me suis arrêté. Et j'ai fait de la critique, j'ai essayé de regarder comment mon esprit fonctionnait. C'est-à-dire que si j'ai écrit encore des poèmes, c'est simplement pour voir comment l'esprit fonctionne quand il écrit des poèmes.
Oui, parce que vous allez nous expliquer qu'en fait, tout le projet d'Edgar Poe, c'est de faire une littérature psychédélique, au sens où elle donne à voir la psyché des personnages. Elle est comme une machine, comme une modélisation finalement de la psychologie des personnages. On va y revenir. Juste avant cela, ce que vous disiez sur Baudelaire qui finalement aime un aspect de l'œuvre de Poe qui est l'aspect fantastique au fond. Et c'est vrai qu'il y a deux aspects, deux airs un petit peu dans la littérature de Poe. D'un côté, il y aurait quelque chose qui relève en effet du policier, qui est aussi incarné par les textes de voyage, et qui va plaire à un certain type de lecteur, par exemple à Jules Verne, vous l'expliquez très bien. Et de l'autre côté, il y a des textes plus fantastiques, comme par exemple La chute de la maison Usher, qui là va plaire à un autre type de lectorat. Et ces deux lectorats, c'est comme s'ils ne se mélangeaient pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu si pour vous, au fond, c'est une œuvre qui est unie, ou s'il y a réellement deux œuvres au sein de la littérature d'Edgar Allan Poe, Henri Justin?
C'est une œuvre unie, c'est pour ça que c'est ce qui m'a motivé dans le travail. Ce qui est justement étonnant, c'est qu'à partir du moment où il est relu, en français en l'occurrence, mais je crois que ça aurait été la même chose avec des lecteurs anglophones, sauf qu'ils sont des moins intéressés, aussitôt il se scinde en deux. Parce que l'art de Poe, mais sa personne, au fond, c'est pas lisible au XIXe siècle. L'art de Poe consiste justement à conjuguer les contraires. Toujours. Et si on a vu cette conjonction des contraires qui fait l'unité de l'œuvre, à ce moment-là, on voit qu'il y a une progression. Je pourrais vous
essayer oui, rapidement.
Bien sûr. Par exemple, le policier, c'est quand même une femme qui se fait trancher la tête, pour simplifier. Et avant, à une date plus, enfin, avant ça, un peu avant son mariage, il écrivait les contes conjugaux qui tourne autour du meurtre d'une femme. Donc on a l'impression, d'un côté, on a un policier qui va tourner intellectuel, mais c'est quand même autour du meurtre de la femme. Et avant, on avait des contes qui étaient sur le meurtre de la femme. Mais est-ce qu'il n'était pas policier, ça? Je crois que si, il était aussi. C'est-à-dire que si on les lit bien, pour les lire bien, Il faut lire dans le texte, il faut chercher dans le texte. C'est plein de, c'est comme les dessins qu'on voit des fois. On dit, ils vont trouver le petit bonhomme qui est caché dans le feuillage. Vous voyez, les dessins sont complètement les textes des contes conjugaux qui paraissent de l'horreur, etc., sont cryptés et sont à lire intellectuellement.
Et pourtant, un écrivain comme Huysmans, par exemple, qui lui disait aimer justement le côté le plus noir, le plus fantastique. En fait, c'est vrai que quand on lit Huysmans, on retrouve cet amour-là. Semblait mépriser le côté plus clair, finalement, de la production de Poe. Donc, est-ce qu'on peut penser que Huysmans n'a pas compris ce que vous venez d'expliquer là sur fondamentalement l'unité de l'œuvre? Et Jules Verne, même chose, mais de l'autre côté.
À mon avis, oui. C'est pour ça que c'est ce qui m'a poussé à travailler si longtemps sur Poe, c'est que il y a très peu de lecteurs, me semble-t-il, qui comprennent ça.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons d'Edgar Allan Poe avec vous, Henri Justin. C'est le moment d'aller un petit peu plus loin dans votre thèse en explicitant le titre de ce livre dont on parle depuis tout à l'heure avec vous, Avec Poe jusqu'au bout de la prose. Vous avez commencé de nous dire un petit peu pourquoi il fallait imaginer la prose de Poe un petit peu en réaction à la poésie, parce qu'au départ c'est quand même un poète Poe, jusqu'à disons 22-23 ans, c'est cela. Henri Justin, il a d'abord voulu être tout en haut de la montagne, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, et puis il n'a pas pu réaliser ce désir-là.
Non, si bien qu'il s'est retranché sur l'idée d'épuiser la prose.
Oui. Alors ça veut dire quoi, justement, aller jusqu'au bout de la prose, épuiser la prose?
Si on prend d'un point de vue, ça c'est une question à laquelle j'avais un peu prévu, donc j'ai un petit papier. Du point de vue du thème, dans tous ses premiers contes, les 10-12 premiers contes, il prend la littérature en vogue et il en fait des pastiches, il la creuse, il l'explore, déjà il l'exploite. Hein, et il arrive à un conte qui s'appelle Silence. En grec, silence, c'est siopé, et c'est un anagramme de is Poe. Mm-hmm. C'est-à-dire que Poe est silence. Ça, je crois que ça fait partie des affirmations données. C'est-à-dire son thème, à lui, c'est le silence. Dans ce conte-là, vous avez l'écrivain à la mode sur son rocher, qui a écrit une autobiographie, qui est très fier de lui, et puis son paysage mental autour. Mais il y a le diable qui est caché dans le paysage et qui va peu à peu ramener le paysage à un lieu vide et totalement silencieux. Mmh. Et à ce moment-là, l'auteur romancier classique à la mode s'enfuit à toutes jambes. Alors, le diable rit. Poe, enfin le narrateur, mais qui est Poe là, on le sait. Il dit, je ne fus pas capable de rire avec le démon. Mmh. Et puis, sort à ce moment-là du caveau, ils étaient tous les trois à la porte d'une tombe, sort un lynx, et le lynx s'assied en face du démon et le regarde dans les yeux. Et je crois qu'on a toute la dramaturgie de Poe, toute l'esthétique de Poe. Le démon, la mort, et le lynx, l'intellection, et ils se regardent les yeux dans les yeux. Et Poe, il est quelque part par là. Il essaie de... Alors donc, c'est
dans la prose.
C'est vraiment une extrémité. La prose se trouve pulvérisée. Alors, il faudrait, du point de vue de la structure, une autre façon de le dire. Vous parliez de Ligeia. L'histoire de Ligeia, c'est pas simplement fantastique. Si c'était simplement fantastique, on aurait un narrateur du genre Maupassant, qui nous raconterait qu'il avait envie de faire revivre sa femme morte, etc., puis qu'il a fait des trucs, voilà, puis finalement, il l'a eu. Mais le langage serait resté tel quel. Mmh. J'ai relu du Maupassant hier, le langage bouge pas, c'est toujours du Maupassant. Mmh. Dans Ligeia, c'est un narrateur très fatigué, qui dit dès le départ, il a donné en titre Ligeia, il dit dès le départ, Ligeia, je ne peux pas me rappeler ni ceci ni cela. Je ne peux pas remember, je ne peux pas la remembrer, au fond, elle est en morceaux. Mm. plus tard, il va essayer de la renombrer, il n'y arrive pas. Il dit, voilà, ben, il y a ça, mais bon. Finalement, il n'a que son nom. Il n'a que le nom. Il n'a que le mot. Il n'a pas le nom de Ligeia. Ce n'est plus une personne. Il y a juste le mot. Ligeia, qui dit, OK, il va travailler. Et finalement, il va, en se racontant sa propre histoire de son hallucination de Ligeia, qui va revenir à la fin, il se crée une auto-hallucination. Et le texte s'arrête brutalement sur l'hallucination, c'est-à-dire qu'en parlant, il s'est à nouveau auto-halluciné. Et le texte s'arrête là, si vous voulez. C'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment le bout de la prose.
C'est le bout de la prose aussi, dans le sens où ça ouvre quand même beaucoup de pistes pour les écrivains qui vont suivre, et notamment dans la façon dont le narrateur va un petit peu disparaître, ou plutôt dont l'auteur va un petit peu disparaître de la prose de Poe. On peut dire que c'est déjà ce qu'on appellera plus tard la mort de l'auteur. Il n'y a pas tellement de commentaires de l'auteur, on est quand même au 19e siècle. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas tellement d'autobiographies. Donc il y a quelque chose d'extrêmement moderne. C'est là aussi où il va jusqu'au bout de la prose, où il invente la prose à venir aussi, Henri Justin.
Je suis pas sûr là. Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question.
C'est-à-dire, il y a le phénomène de la mort de l'auteur chez Poe. Vous pourriez dire ça.
Oui, on pourrait dire ça. Il annonce la mort de l'auteur. Bon, c'est devenu un thème philosophique. Mais c'est une des erreurs qu'on continue à faire et que font les traducteurs aussi, c'est de lire le texte comme s'il était écrit par Poe. Alors qu'en fait, ce sont tous des monologues dramatiques. C'est comme si c'était extrait d'une pièce de théâtre. Ce sont tous des personnages, les narrateurs. Plus ou moins, hein, ça dépend des textes.
Donc, chercher l'autobiographie, par exemple, ça ne sert à rien.
Ils se moquent des autobiographies. Ils disaient, les autobiographes qui disent le sujet que je connais le mieux, c'est moi. Alors là, ça le fait rire. Comme si on se connaissait soi-même.
Avant d'aller plus loin, Henri Justin, dans l'analyse de ce qui fait la littérature de Poe, je vous propose d'écouter un extrait d'un de ses contes les plus célèbres, Le Corbeau.
Par un lugubre minuit où je méditais, là et plein d'ennui, sur main volume étrange d'une science perdue, alors que je dodelinais presque endormi, il y eut soudain un léger bruit comme de quelqu'un frappant discrètement, frappant à la porte de ma chambre. C'est quelque visiteur, murmurai-je, qui frappe à la porte de ma chambre. Ce n'est que cela, et rien de plus. Oh, je me souviens distinctement. C'était par un glacial décembre, et chaque tison, en mourant, sur le parquet, sculptait son ombre. Je souhaitais ardemment le matin, car j'avais demandé en vain à mes livres un sursis à mon chagrin. Mon chagrin d'avoir perdu Lénore, la jeune fille incomparable et radieuse que les anges nomment Lénore, qu'ici-bas, nul ne nomme plus. Et la triste, soyeuse et incertaine houle de chaque draperie de pourpre me faisait tressaillir, m'emplissait de terreurs inconnues, si bien que pour calmer mon cœur battant, je me levais en répétant « C'est quelque solitaire à la porte de ma chambre, un tardif solliciteur à la porte de ma chambre. C'est cela, et rien de plus. » Mon cœur s'affermit sur le champ, et n'y étant pas plus longtemps, « Monsieur, dis-je, ou madame, il faut me pardonner vraiment, mais je sommeillais, le fait est. Et vous avez si doucement frappé, vous avez si faiblement frappé à la porte de ma chambre, que je doutais de bien entendre. » Ici, j'ouvris ma porte, toute grande. Les ténèbres. Et rien de plus. Scrutant profondément l'obscurité, je demeurai longtemps craintif, tout étonné, perplexe, et plein de rêves que nul n'avait fait encore. Mais nul signe, nul bruit ne me vint de la nuit. Le seul mot qui fut dit fut chuchoté. Lénore. C'est moi qui le chuchotais, et un écho le répéta. Lénore.
« Une lecture par Jacques Fayet. Que retenez-vous de cet extrait, Henri Justin ?
D'abord la fin, l'écho. Il ouvre la porte, il appelle. Je dis, il a entendu du bruit. Donc, il appelle Lénore. Il entend Lénore, mais c'est l'écho. C'est vide. Et c'est la chambre close qui s'ouvre, mais faussement, puisque ça s'ouvre sur un écho. Ça retombe dans une autre chambre close. Et c'est la première chose. C'est le monde de Poe. Il y a une fenêtre qui va finir par s'ouvrir.
Et alors, vous expliquez que la littérature de Poe, c'est une littérature à effet. Quel serait l'effet produit par... par exemple cet extrait qu'on vient d'entendre, ou plus globalement par cette célèbre nouvelle Le Corbeau?
C'est un poème, et il est traduit comme une sorte de nouvelle par Baudelaire. C'est un poème qui a son schéma dramatique, ça aurait pu être un petit poème en prose si on veut, mais qui rit très fort, très violemment rimé par Poe. Et le premier succès du poème a été, moi j'ai senti ça parce que j'en ai fait une traduction rimée et tout avec les assonances, les paronomases, etc.
Et pourquoi Baudelaire ne l'a-t-il pas traduit de manière davantage rimée?
Il a dit que les poèmes de Poe c'était un cristal pur et qu'on pouvait pas, c'était impossible de le faire. Mais la renommée du Corbeau dans les pays anglophones, c'est d'abord ses sonorités, c'est justement la chambre est un écho. Et c'est tous ces échos sont répétés de façon presque caricaturale par moment dans le poème. Il y a un côté presque comique du Corbeau. Pas uniquement, mais je joue un peu à la limite, si vous voulez.
Donc vous n'avez pas peur de dire que Baudelaire, alors non seulement il s'est trompé sur beaucoup de mots qu'il connaissait mal en anglais, mais que on peut faire mieux que Baudelaire en traduction. D'ailleurs, vous vous êtes pas gêné, hein, vous avez retraduit beaucoup de Edgar Poe.
Je crois que... Moi, je suis angliciste, c'est-à-dire que j'ai toujours travaillé Poe en anglais. J'ai lu un peu de Baudelaire tardivement. Je dois avouer que les fois où je me suis franchement assis dans un fauteuil en disant « je lis une nouvelle par Baudelaire », une histoire extraordinaire par Baudelaire, c'est agréable à lire, c'est bien, hein, c'est bien. Mais c'est pas Poe.
Hein. C'est pas Poe, c'est du pot de l'air, comme on a dit parfois.
Oui, pot de l'air.
Et alors, c'est quoi le pot de l'air par rapport à Poe pour nous pauvres lecteurs francophones qui n'avons pas accès?
Je vais vous donner un exemple, je crois que c'est quand même le mieux. Prenons le Goldbug, le scarabée d'or. À la fin, celui qui a trouvé le trésor, le grand, dit... Enfin, il parle avec l'autre, il parle avec le narrateur, il dit, on se demande comment le capitaine, est-ce que le capitaine, comment il a tué le capitaine Kidd, comment il a tué ses associés, parce que, avec le trésor, ils ont trouvé deux cadavres. Il se demande comment il a tué les associés, et il termine, who shall tell? Qui le dira? Baudelaire traduit, qui nous le dira? C'est-à-dire que Baudelaire réintroduit la communication entre les gens. Le « je tue ». Chez Poe, c'est « qui le dira ». Et j'ai démontré dans un essai que le grand le pense pour lui tout seul. Et quand on remonte en arrière, on s'aperçoit qu'au moment où le grand a vu le trésor, il a eu la tentation de tuer ses deux acolytes. C'est-à-dire l'or est toujours lié à la mort. Mais ça, Baudelaire ne le voit pas.
Mais peut-être qu'il voit d'autres choses que Poe lui-même n'avait pas vues, d'ailleurs.
C'est vous, dites-moi quelque chose, parce que moi, je ne connais pas bien Baudelaire.
Je ne sais pas, je pense qu'il y a des images dans les traductions de Baudelaire qui, en effet, surajoutent de la poésie et surajoutent ce que Poe n'a pas forcément voulu y mettre, mais ça reste des images extrêmement belles. Donc, c'est une interprétation, comme quand on joue un morceau de musique, on interprète le compositeur, et c'est un petit peu ce que Baudelaire a fait.
Là, il faudrait des exemples. Je n'ai pas souvenir qu'il ajoute de belles images, parce que Poe est aussi poète, hein. Et sa prose peut être très poétique dans son genre, mais La poésie va toujours être minée par l'ironie, par les cryptages. Peut-être qu'on y viendra, le fait que ce sont des choses cryptées où il y a des mots qu'il faut aller, gratter en dessous, voir ce qu'il y a.
Bon, je lance un concours sur Twitter. Chacun peut aller chercher les belles images de Baudelaire quand il traduit Poe sur le compte de la Compagnie des auteurs. C'est l'inventeur de la nouvelle, Edgar Allan Poe. Vous diriez ça, vous ?
J'ai pas compris.
Est-ce que c'est l'inventeur de la nouvelle ?
C'est en tout cas l'inventeur d'une forme extrêmement exigeante de conte. Bon. La nouvelle, évidemment, elle existait avant. Il y avait, je sais pas, Boccace, il y a énormément, les exemplum dans les sermons, il y avait beaucoup de formes courtes, de prose. Mm-hmm. Mais il lui a donné une exigence qui sans doute n'y était pas. Et par rapport à Hoffmann, parce que Hoffmann a été publié en France vers 1830, je crois, et on avait un fantastique un peu débridé, avec une prose qui se laissait un peu aller. Et avec les traductions qui sont venues ensuite, dans les années 1850, on a eu un nouveau fantastique, mais qui était d'une autre exigence.